France Inter.
France Inter, il est 13h. Le 13-14, Jérôme Cadet.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. Que va-t-il rester du plan de paix de Trump pour Gaza ? Les Israéliens posent ce matin de nouvelles conditions. Nous verrons cela quand le Hamas, lui, garde le silence pour l'instant et que 8 pays arabes ou musulmans salue le rôle joué par le président américain. Nous serons en Turquie. À suivre encore, 750 000 personnes âgées sans aucun contact humain, en état de mort sociale dans notre pays, nous dit l'association Les Petits Frères des Pauvres. Elle est notre invitée. Le procès de Cédric Jubilard devant les assises du Tarn. Bonjour Jean-Philippe Degnaud.
Bonjour Jérôme.
Vous êtes sur place, un procès qui prend une tournure inattendue.
Oui, parce qu'il y a dans l'enquête implacable présentée par l'accusation l'émergence de failles sur lesquelles la défense de Cédric Jubilard rebondit inlassablement.
A tout de suite pour vos précisions. Nous parlerons aussi de ce sommet de l'élevage la semaine prochaine à Clermont-Ferrand, sans aucune vache, de nos bulletins de salaire, on n'y comprend pas grand-chose, et de cette actrice dont parle tout Hollywood en ce moment, et pour cause, bonjour Victor Vasseur.
Bonjour à tous.
C'est une intelligence artificielle.
Oui, elle s'appelle Tilly Norwood, une jeune comédienne d'une vingtaine d'années, générée par une IA. Elle est ultra réaliste.
A tout de suite. À partir de 13h30, quel avenir pour les aides à la rénovation ? Le guichet MaPrimeRénov' rouvre aujourd'hui, mais sa suspension a-t-elle cassé l'élan ? J'attends vos questions et témoignages. 01 45 24 7000. 13h50, c'est la France, le retour des mobilettes et autres Solex. Nostalgie ou vraie solution ? Ce sera avec Cyril Petit du journal Ouest France. Et puis juste avant 14h, c'est une chanson. Le romancier Franck Bouys demande Brian Ferry à Frédéric Pommier. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
Un accord pour l'éternité. Voilà comment Donald Trump a qualifié hier soir son plan de paix pour Gaza. Moins de 24 heures plus tard, on en est à se demander si ce plan n'est pas déjà enterré. Non pas que le Hamas ait dit non, le mouvement islamiste réserve encore sa réponse, on va y venir dans un instant. Non, c'est de Benjamin Netanyahou lui-même que viennent les réserves, voire les critiques ce matin. Bonjour Étienne Monin.
Bonjour Jérôme.
À peine quitté la Maison Blanche, le Premier ministre israélien détricote déjà le plan de Trump.
Oui, ça apparaît comme la première faiblesse de cette architecture. Le Premier ministre israélien s'accorde des marges de manœuvre. Depuis hier soir, Benjamin Netanyahou égrène ses conditions. Ce matin, il répète qu'il n'y aura pas d'État palestinien, que l'armée restera dans la majeure partie de la bande de Gaza. Hier, il avait déjà parlé d'un retrait modeste et d'une mise à l'écart de l'autorité palestinienne. Il repositionne en quelque sorte ses lignes rouges, alors que le plan demandé justement aux deux parties de sortir du nœud qui avait bloqué toutes les précédentes propositions. En gros, Israël devait céder sur le retrait de l'enclave et le Hamas devait céder sur le désarmement. L'autre faiblesse touche au plan lui-même. Le calendrier des avancées est lointain, les contours de la gouvernance restent flous et les conditions du retour de l'autorité palestinienne sont pour l'instant très sommairement présentées dans ce contexte. Le plan peut facilement être perçu par le Hamas comme un ultimatum.
C'est quand même extrêmement rapide comme revirement pour reparler de Benjamin Netanyahou.
Oui, parce qu'on parle de sa survie politique. La coalition de Benjamin Netanyahou repose toujours sur les partis d'extrême droite. Ils sont partisans de la poursuite de la guerre et de l'occupation de Gaza. Ce matin, l'un des deux ministres d'extrême droite, Bezalel Smotrich, a ouvertement critiqué le plan, mais il n'a pas menacé pour l'instant de quitter la coalition. On peut donc soupçonner le Premier ministre de poser ses lignes rouges pour cimenter cette coalition. C'est aussi un moyen pour tenter de pousser le Hamas à la faute s'il refuse le plan israélien. Israël aura le plan israélo-américain, on peut dire ça comme ça, alors, eh bien Israël aura les mains libres pour poursuivre la destruction de l'enclave.
Étienne Monin, rédaction internationale de Radio France. Alors, on vient d'entendre les réserves israéliennes, mais il faut noter que ce plan, avec, je le rappelle, cessez-le-feu, libération des otages israéliens, désarmement du Hamas et retrait progressif israélien du territoire de Gaza, ce plan a été salué dès hier soir par de nombreux pays arabes, Égypte, Jordanie et même le Qatar, pourtant bombardé par Israël il y a quelques jours. Bonjour Marie-Pierre Véraud.
Bonjour à vous.
Vous êtes notre correspondante en direct d'Istanbul et vous étiez au Qatar vous-même il y a quelques jours. Qu'est-ce qui pousse ces pays aujourd'hui à approuver ce plan ?
Eh bien, écoutez, d'abord, on le sait, c'est quand même Washington qui donne le ton dans la région. Et puis, ce plan, il retrouve une ligne déjà esquissée par ces pays arabo-musulmans dès cet été. Ils avaient appelé au désarmement du Hamas, à son abandon de toute velléité de gouvernance du territoire. C'était lors de la conférence co-présidée par la France et l'Arabie Saoudite. En fait, ces pays, ce sont les seuls interlocuteurs du mouvement islamiste palestinien, les seuls à même d'infléchir la ligne dure prônée jusqu'à présent par le Hamas.
Justement, que peut faire le Hamas, Marie-Pierre ? Trump leur propose quand même une capitulation, ça y ressemble.
Et oui, et c'est toute la question. Hein. Le Hamas est-il vraiment prêt à se saborder alors que l'existence d'un État palestinien n'est pas écrite, alors que le retrait total de l'armée israélienne est tout sauf assuré ? Ces pays arabes et musulmans, longuement flattés hein, par Donald Trump hier soir, disposent en fait de très peu de marge de manœuvre pour l'en convaincre, tant ce plan Trump donne beaucoup à Netanyahou sans apaiser les craintes des Palestiniens. Et leur tâche est d'autant plus ardue que le Hamas est dual. Il y a sa branche politique au Qatar, mais aussi la branche armée, les brigades Ezedim al-Qassam à Gaza, beaucoup plus radicale. Alors, qui décide vraiment ? On le sait, Donald Trump l'a rappelé hier, le Hamas a été décimé. Ceux qui restent à Gaza sont sans doute les plus radicaux, retranchés dans des tunnels. Ils ont tout à perdre à lâcher Gaza. Ces militants armés sont déconnectés de la direction politique. Et même si cette dernière approuvait le plan de Donald Trump, eh bien, rien ne dit que la branche armée suivrait ses consignes.
Merci Marie-Pierre Véro, correspondante de France Inter en Turquie. Tous les 4 ans, depuis 2017, l'association Les Petits Frères des Pauvres mesure la solitude des personnes âgées. Le critère, n'avoir plus aucun contact, ni avec sa famille, ni avec ses amis, ses voisins, voire même des associations. En 2017, 350 000 de nos aînés étaient dans cette situation. Aujourd'hui, ils sont 750 000, selon l'étude réalisée par l'entreprise CSA. Bonjour Isabelle Sénécal.
Bonjour.
Vous êtes la responsable du pôle plaidoyer pour l'association Les Petits Frères des Pauvres. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous donne la parole dans une minute. Avant cela, je voudrais qu'on détaille quelques chiffres de cette étude avec vous, Mathieu Bonnour. Bonjour Mathieu.
Bonjour.
C'est une hausse considérable.
Oui, et ça pourrait même s'aggraver. Selon les projections de cette étude, le nombre de morts sociaux pourrait atteindre 1 million d'ici 5 ans, si rien n'est fait pour tenter d'endiguer ce phénomène. La région Centre-Val de Loire est la plus touchée, avec un mort social sur 10, et les plus précaires sont en première ligne. Les petits revenus de moins de 1000 euros, particulièrement d'après cette étude, qui pointe aussi du doigt une fracture numérique. Dans de nombreux cas, les seniors concernés n'utilisent jamais Internet. Ce chiffre gonfle lui aussi ces dernières années. Et ce qui est encore plus terrible à la lecture de ce rapport, c'est la durée de l'isolement. En majorité, depuis plusieurs années, témoignent les personnes interrogées. Un sentiment persistant, très souvent lié à la mort d'un partenaire ou d'un proche, avec l'impasse, celle de pouvoir se confier sur sa vie, ses problèmes, ses réflexions. Un tiers des seniors n'ont personne à qui raconter leurs problèmes.
Merci Mathieu Bonnour. Isabelle Sénécal, je voudrais revenir sur cette expression. Mathieu l'a employée à plusieurs reprises, c'est la vôtre. Mort sociale, ce sont des mots très forts. Ça veut dire que ce sont des gens qui ne voient jamais personne.
Tout à fait. La mort sociale, donc c'est en effet une terminologie petit frère des pauvres. C'est l'isolement extrême, c'est-à-dire ce sont des personnes âgées qui n'ont pas ou quasiment pas de contact avec la famille, avec les amis, avec les voisins et le tissu associatif. Et donc cet isolement extrême, on a voulu dès le début, quand on a fait le premier baromètre en 2017, marquer avec un terme fort parce que ça correspond à ça. Ce sont des personnes qui sont mortes socialement.
On est dans une époque quand même, Isabelle Sénécal, hyper connectée. On peut parler à tout le monde, à tout moment, à n'importe quel endroit de la planète, et on n'a jamais vu autant de solitude, et notamment chez les personnes âgées.
Chez les personnes âgées, mais également chez les jeunes. Il y a d'autres études qui montrent aussi que c'est un phénomène qui se généralise à toute la population. Et donc, en fait, c'est une vraie réflexion de société. Et vous l'avez dit, on est ultra connecté, mais tout en étant ultra connecté, on peut être à la fois très seul et très isolé.
Comment vous expliquez cette hausse entre le baromètre 2017 et celui de 2025 ? Alors certes, la population vieillit, mais pas dans ces proportions.
Alors bon, déjà en effet, elle vieillit. Hein. Il y avait 17 millions de 60 ans et plus en 2017. On en est à 18,7 en 2025. L'INSEE table sur 20,6 millions en 2030. Donc il y a quand même une augmentation que je vais qualifier de quasi mécanique, hein, du nombre de personnes
mais
en situation de mort sociale. Mais en effet, il n'y a pas que ça. Il y a aussi la forte augmentation des personnes du grand âge. Le grand âge, c'est un âge des ruptures. On perd son conjoint, on perd ses amis du même âge, ses voisins du même âge. Et quand on a déjà un tissu relationnel faible, on peut basculer en effet dans la mort sociale. Va se rajouter aussi la perte d'autonomie, la limitation des déplacements. Quand on sort, on voit quand même un petit peu de monde. On a un chiffre, c'est une personne sur deux, une personne âgée sur deux ne sort pas de chez elle quotidiennement. Donc là aussi, ça fait réfléchir. Et il y a les dispositifs de repérage. Il y a des personnes qui passent, si vous me permettez l'expression, sous les radars. Ça n'aide pas non plus. Et la hausse de la pauvreté, hein, 2 millions de personnes âgées pauvres en France, ça continue à augmenter la pauvreté des personnes âgées. Et il y a un lien qui est très fort, bien sûr.
Isabelle Sénécal, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que chacun d'entre nous peut faire?
Alors, ce qu'on peut faire, moi j'ai deux, parce qu'on a fait une quinzaine de préconisations. J'ai une préconisation pour les citoyens, les auditeurs.
Allez-y.
Bien sûr, c'est que je pense que chacun d'entre nous, on peut faire quelque chose en faisant attention aux personnes âgées de notre entourage proche, mais aussi nos voisins âgés, aller vers eux, leur parler, échanger quelques mots. Je pense que c'est très très important, parce qu'il y a des personnes âgées qui ne parlent à personne de la journée, et donc je pense qu'un petit peu de solidarité et d'humanité dans notre société fracturée, ça fait pas de mal. Et ça, je pense que c'est à la portée de tout le monde. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, très rapidement, c'est un peu sur les décideurs publics de prendre vraiment ce fléau à bras-le-corps. Car déjà, au-delà des conditions de vie des personnes âgées, il y a aussi un fort impact au niveau des dépenses publiques. C'est une personne âgée isolée, et ben, c'est une personne âgée qui va être en perte d'autonomie précoce, qui va avoir des problématiques de santé très important, et ça, ça impacte évidemment.
Merci Isabelle Sénécal d'avoir accepté notre invitation, responsable du pôle plaidoyer pour l'association Les Petits Frères des Pauvres. Pour les jeunes, la préoccupation principale, c'est la précarité, manque d'argent pour acheter par exemple des produits d'hygiène et cosmétiques. Voilà pourquoi la région Occitanie a financé à Toulouse l'installation sur le campus de Rangueil depuis la rentrée d'un distributeur automatique et gratuit de ce type de produits. Reportage Marie Maison.
C'est un distributeur comme vous en voyez dans les gares ou au travail, sauf que celui-ci est un peu spécial. Haïm a déjà repéré les produits qui l'intéressent, il est étudiant en sciences de la terre.
Ça serait le shampoing et le rasage qui sont des produits qui coûtent le plus cher à peu près. Quand on est étudiant, on est vraiment focus vraiment sur l'alimentation. Et parfois quand on fait des courses, on oublie carrément d'acheter des produits d'hygiène. Et c'est vrai que maintenant, parfois on a des jours où on fait les fonds de tube, on met de l'eau dans le shampoing, etc.
Le principe, c'est 2 produits par mois par étudiant. Il n'y a aucune condition d'accès. Il faut juste badger sa carte étudiante sur le terminal. Le choix est vaste. Alice a eu du mal à se décider.
On a pas mal de produits pour l'hydratation. On a des crèmes pour les mains. On a pas mal de shampoings solides, de gel douche. Et tout ça, du coup, gratuit. Et franchement, c'est des produits de très bonne qualité, donc c'est une très bonne nouvelle.
Et pour ça, la région Occitanie a investi 100 000 euros. Sa vice-présidente, Nadia Pelfig, issue de la majorité de gauche.
Le partenariat a été fait avec l'entreprise Pierre Fabre, et puis également l'entreprise Florence Nature, qui développe aussi des produits éco-responsables, de type shampoing solide.
L'université attend les premiers retours sur ce distributeur. Elle envisage ensuite d'en installer d'autres sur le campus.
Reportage ici, Occitanie. Le constructeur Stellantis baisse encore sa production de voitures en France. C'est en raison de la chute de la demande sur le marché européen et c'est désormais l'usine de Mulhouse qui est concernée. Elle va devoir fermer pour une semaine à partir du 27 octobre. Bonjour Maxime Debs.
Bonjour.
4700 personnes travaillent dans cette usine. Au total, 2000 vont être concernées.
Oui, 2000 salariés qui travaillent à la chaîne, à la production. Des modèles, 308, 408 et autres DS. La direction invoque, vous l'avez dit, un marché européen difficile avec des constructeurs comme Volkswagen qui prennent des décisions similaires. Avec la semaine dernière, là aussi, l'arrêt de 2 usines en Allemagne. Reste que pour les syndicats chez Stellantis, tout ça est synonyme d'une situation qui se tend. Benoît Vernier, à la CFDT, n'est vraiment pas rassuré.
Ça commence à être inquiétant. On avait Poissy qui a été annoncé semaine dernière là dans les CSE. On voit que maintenant Mulhouse est concerné, Sochaux aussi va être concerné par des semaines incomplètes.
Sochaux où la production va aussi être arrêtée partiellement. 3 vendredis seront prochainement chômés, mais chez Stellantis, un porte-parole nous précise que ça n'a rien à voir. Là, il est question de pièces qui manquent, souci de fournisseurs, rien de plus. Pour autant, les syndicats demandent des signaux positifs à envoyer aux salariés.
Il y a vraiment de l'inquiétude qui commence à grandir au sein du groupe. Et pour l'instant, on a un manque de communication de la direction et on aimerait vraiment que Antonio Filaza donne des orientations stratégiques et parle de l'avenir du groupe.
Antonio Filaza, autrement dit le nouveau patron du groupe, qui doit dévoiler son plan stratégique en février. Dans 5 mois, donc, c'est trop loin, c'est trop long pour les syndicats.
Merci Maxime Debs pour ces explications. Les contours de la journée d'action intersyndicale de jeudi contre les projets de budget du gouvernement, ces contours se dessinent petit à petit selon les estimations du syndicat FSU-SNUPP, le principal dans le premier degré. Il y aura 10% de professeurs des écoles grévistes après-demain. 10%, c'était un tiers il y a 2 semaines. La CGT, elle annonce 230 manifestations et rassemblements partout en France. Les spécialistes des assises le savent, rien ne remplace un procès qui décrit bien souvent une réalité plus complexe que celle de l'enquête. C'est le cas du procès de Cédric Jubilard qui a ouvert il y a 10 jours à Albi, accusé du meurtre de sa femme Delphine. C'était fin 2020. Jean-Philippe Degnaud, on vous retrouve sur place. Jean-Philippe, jour après jour, les certitudes vacillent dans ce procès et on est frappé de voir à quel point l'accusation est bousculée.
Ben oui, parce que ce procès a cette particularité qu'il ne s'agit pas de prouver par A plus B que Cédric Jubilard est coupable, puisqu'il n'y a pas de preuve formelle. Mais effectivement, les deux avocats de Cédric Jubilard ne cessent de relever des failles dans le faisceau d'indices exposés par l'accusation avec une certaine efficacité. Ce matin encore, alors qu'il était établi que des traces suspectes de sang avaient été retrouvées sur une housse de couette et des vêtements du couple Jubilard, l'experte en ADN a bien précisé que les échantillons examinés ne permettaient pas d'en tirer une quelconque conclusion, que les microtraces de sang ne pouvaient pas être datées dans le temps et qu'elles contenaient un mélange des deux ADN de Delphine et de Cédric Jubilard, sans plus de précision. En clair, ce petit élément au large faisceau d'indices de l'accusation ne pouvait, lui non plus, ne pas être reconnu comme un élément à charge.
Quel effet tout cela finit-il par produire sur la salle d'audience, Jean-Philippe ?
Ah ben, le fait est que le public en parle beaucoup lors des suspensions d'audience. Et puis nous aussi, entre chroniqueurs judiciaires, on dresse des listes de ces petits éléments dont même les plus grands spécialistes de l'affaire Jubilard n'avaient pas connaissance. Alors, personne n'est dans la tête des 6 jurés qui, aux côtés des 3 magistrats qui composent cette cour d'assises, écriront le verdict dans 3 semaines quand, conformément à l'article 353 du Code de procédure pénale, ils s'interrogeront dans le silence et le recueillement sur les preuves rapportées contre l'accusé et les moyens de sa défense, avec cette seule question: avez-vous une intime conviction ?
Merci Jean-Philippe Degnaud en direct d'Albi avec les moyens techniques de Laurent Macchetti. Avez-vous tout compris à votre dernière fiche de paye ? À cette question, année après année, les Français interrogés répondent en majorité pas grand-chose, si bien que l'an dernier, le gouvernement avait annoncé vouloir rendre ce document plus lisible. Bon, aujourd'hui, rien n'a changé et certainement pas le constat. Bonjour Mathilde Leroy.
Bonjour.
C'est une étude pour Club Landois qui a été menée par l'entreprise Via Voice. Les 2/3 des salariés ne comprennent pas leur bulletin de salaire, à commencer par la différence entre salaire brut et salaire net.
Effectivement, il y a encore beaucoup de confusion. Il faut rappeler que le salaire brut correspond à la rémunération avant toute déduction fiscale ou sociale. Le salaire net, c'est ce que touche le salarié après les prélèvements obligatoires. Le salaire net, c'est donc en moyenne le salaire brut moins 22%. Alors ces 22%, ces cotisations servent à financer la retraite, l'assurance maladie, le chômage, la famille ainsi que les accidents du travail. C'est d'ailleurs écrit comme cela sur votre fiche de paie. Mais l'utilisation de ces cotisations est souvent mal comprise. Près d'un Français sur deux pense qu'il cotise pour sa propre retraite. En fait, le système français repose sur un principe de solidarité entre les générations. Les travailleurs d'aujourd'hui payent donc la retraite de leurs aînés. À noter que 59% des salariés ne savent pas à quoi servent la CSG et la CRDS aussi.
Bon, ils en savent un peu plus maintenant grâce à vous. Mathilde, pourquoi est-ce qu'on en parle maintenant ? Quel est l'enjeu au fond ?
Eh bien, ces 2 contributions, la CSG et la CRDS, servent justement par exemple au financement de la protection sociale. Mmh. Et en cette période de discussion sur le budget, il est primordial, insiste Arnaud Zegerman, sociologue à l'Institut de sondage Via Voice, de savoir qui paye quoi.
Ne pas comprendre sa fiche de paie, c'est ne pas comprendre notre système de protection sociale. Or, notre système de protection sociale, c'est une question démocratique. Donc, ne pas comprendre sa fiche de paie, c'est ne pas comprendre une des questions fondamentales qui fondent notre système.
Et ce qui fonde notre système, c'est une protection universelle. 68% des personnes interrogées estiment que c'est grâce à leur cotisation qu'elles ont droit à une protection sociale. Uh-huh. En réalité, les salariés participent au système global qui bénéficie à l'ensemble de la population, qu'elle travaille ou non.
Merci Mathilde Leroy. Ni vache, ni taureau, ni veau la semaine prochaine au sommet de l'élevage de Cournon, tout près de Clermont-Ferrand. 120 000 visiteurs l'an dernier. Les allées seront bien silencieuses, tout cela en raison de l'épidémie de dermatose nodulaire qui touche nos troupeaux depuis des mois. 79 foyers détectés, ça c'était le chiffre officiel mi-septembre. Et donc les éleveurs craignent pour leurs animaux, c'est ça hein. Bonjour Marie-Amel Curdi.
Bonjour.
Ce sont eux en fait qui ont décidé de pas venir.
Oui, parce qu'autour de Cournon d'Auvergne, seuls les départements de la Loire et du Rhône sont actuellement en quarantaine. Dans les deux Savoies, les restrictions de mouvement vont bientôt être levées. Mais il y a un mais, explique Jacques Chazalet, président de ce sommet de l'élevage.
Les autres départements, il peut y avoir des mouvements d'animaux. Mais au-delà de ça, il y a les recommandations des vétérinaires. Et puis la prise de position des éleveurs. Et les éleveurs, il faut bien comprendre qu'ils sont dans un état assez traumatisant vu le fait que c'est un abattage total du troupeau.
Oui, parce que vous le savez, il suffit d'une vache touchée par la dermatose nodulaire et c'est l'ensemble du troupeau qui est abattu. Alors beaucoup d'éleveurs préfèrent le principe de précaution. Sébastien Cluzel, responsable de la race charolaise dans le Puy-de-Dôme, a dû gérer plus l'anxiété que la maladie elle-même chez ses confrères. Des questions autour de ce dernier foyer dans le Rhône alors que la dermatose n'avait pas dépassé les frontières de la Savoie et de l'Ain jusqu'à il y a encore deux semaines.
La maladie s'est échappée de cette zone pour des raisons anormales, il faut le dire, donc lesquelles je ne les connais pas, mais la maladie n'a pas pu faire un bond de 100 km d'un coup juste de par les vecteurs. Donc il y a eu pas mal de trous dans la raquette, je pense, au niveau de la propagation de ce cas-là. Et c'est bien ce cas-là qui a entraîné une certaine irrationalité dans les décisions des éleveurs et des organisateurs.
Les organisateurs qui précisent et espèrent que même sans vaches, les moments d'échange et de convivialité seront maintenus, Jérôme.
Maria Melcurdi, une très violente explosion ce matin dans le centre-ville de Lyon, rue de la Monnaie. C'est dans la cuisine d'un restaurant que cette explosion a eu lieu. Elle a fait 3 blessés, dont 2 graves, 2 personnes qui ont été transportées à l'hôpital. Un périmètre de sécurité a dû être mis en place. Les poussées de fièvre de nos océans sont de plus en plus fréquentes. L'observatoire européen Copernicus livre ce matin son dernier rapport annuel. C'est le 9e sur l'état des océans. Les données datent de 2023 et 2024. Et parmi les indicateurs dans le rouge, Sandy Dauphin, la température des eaux.
En 2023, 99% de l'Atlantique Nord a été touché par une canicule marine, c'est-à-dire des températures extrême pendant au moins 5 jours d'affilée. Plus au sud, certaines zones de l'Atlantique tropical autour des Caraïbes ont connu 300 jours de canicule sur 365. Et cette surchauffe touche aussi la Méditerranée, alerte Pierre Bahurel, directeur général de Mercator, chargé du service marin de Copernicus.
En Méditerranée, là en l'occurrence en 2023, c'est la plus longue canicule marine observée depuis 40 ans. Entre mai 2022 et début 2023, on a observé des températures de surface qui étaient 4,3 degrés au-dessus de la normale.
La mer se réchauffe et elle devient aussi plus acide à force d'absorber toujours plus de CO2 émis par les activités humaines. Un danger pour les coraux, gorgones, oursins et autres espèces, même dans une zone protégée comme la réserve naturelle de Scandola en Corse.
La réserve naturelle de Scandola qui abrite du corail rouge en Méditerranée, même si elle est protégée de la surpêche par exemple, on a des incidences du réchauffement climatique qui vont toucher ces zones. Une augmentation assez forte de la température va déranger les espèces marines et l'acidité attaque le taux d'aragonique, c'est-à-dire ce qui est nécessaire pour les animaux, pour construire leur squelette ou pour certains coquillages.
Et les températures extrêmes favorisent la prolifération d'espèces invasives qui chamboulent tout l'écosystème local, comme en Italie, dans le delta du Pô, le crabe bleu a décimé les populations de palourdes.
Sandy Dauphin.
France Inter, le 13-14, Jérôme Cadet.
On ne la verra jamais sur un tapis rouge en chair et en os, mais la verra-t-on un jour à l'écran ? Tilly Norwood est une jeune comédienne, je ne sais pas si je peux véritablement employer ce mot, mais allons-y. À un détail près, elle a été créée par une intelligence artificielle, et vous comprenez mes réserves. Tilly Norwood vient d'être dévoilée au festival de Zurich en Suisse. Elle fait polémique aussi à Hollywood, aux États-Unis, dans un moment où l'IA est un sujet extrêmement sensible pour le cinéma. Victor Vasseur, on vous retrouve. Faites-nous les présentations.
Tilly Norwood est brune, les cheveux ondulés, musclé, des yeux en amande et un beau sourire. On lui donnerait 24-25 ans. C'est le portrait robot de l'actrice hollywoodienne. Elle apparaît quelques secondes dans une vidéo humoristique disponible sur Instagram. Tilly Norwood est née dans un studio néerlandais. Cette entreprise a de grandes ambitions. Elle prévoit de développer une quarantaine de profils d'IA, des fausses stars hyper réalistes disponibles pour des films, des jeux vidéo, des campagnes de publicité. Aux États-Unis, cette IA fait vivement réagir. On est foutu, c'est effrayant, s'exclame l'actrice Emily Blunt. Inquiétude également en France, à l'ADAMI, la société de gestion des droits des artistes. Elisabeth Le Hot en est sa directrice générale.
Même si c'est un coup de com' à Zurich, c'est un vrai signal sur la maturité de la technologie. On risque d'avoir sur nos écrans des algorithmes qui jouent, qui ne transmettront pas une émotion et qui vont vraiment détériorer le travail artistique.
Emmanuel Le Hot le rappelle, pour réaliser ses portraits, ses visages si précis, la machine a dû voler des centaines d'images d'actrices trouvées sur le web.
Cette Tilly Norwood peut donc, Victor, répondre aux consignes diverses d'un réalisateur ou d'une réalisatrice. A-t-elle la moindre chance de se retrouver un jour dans un film ?
L'ancienne comédienne Eline van der Velden, qui dirige le studio néerlandais, compte bien placer Tilly Norwood dans des films. Elle assure être en contact avec des agences artistiques aux États-Unis pour la représenter. Quelques clips sont disponibles sur sa page Instagram. Tilly Norwood interprète une super héroïne et joue dans un film historique. Et au vu de la qualité de l'image, elle pourrait bien apparaître dans un vrai film pour un petit rôle, pour quelques plans, sans que personne ne le remarque.
Merci Victor Vasseur. Une évasion au cœur de l'Amazonie. Voilà la promesse du musée du Quai Branly, qui ouvre aujourd'hui sa nouvelle exposition nommée Amazonia, sous-titrée Création et futurs autochtones. C'est en photo, c'est en vidéo, mais il y a surtout beaucoup d'objets issus de la collection du musée et de nombreux prêts qui viennent précisément des peuples autochtones où la culture est toujours extrêmement vivante. Julien Baldacchino a pu parcourir à Paris les salles de cette expo.
On a l'habitude de voir les coiffes, les costumes et les objets rituels d'Amazonie comme des objets traditionnels, mais l'exposition veut nous les montrer autrement, car pour les peuples autochtones, ces objets sont une forme d'art contemporain. L'artiste Denilson Baniwa est l'un des commissaires de l'exposition. On est habitué à connaître ces cultures par quelqu'un de l'extérieur qui vient les expliquer. On a voulu inverser le regard. On a voulu inviter des personnes qui vivent ces cultures à les présenter. C'est cette inversion qu'on présente dans l'exposition. L'expo questionne la notion de futur pour les autochtones, des futurs pluriels, y compris pour les peuples les plus isolés dont on a comme témoignage que quelques objets. L'anthropologue Leandro Varisson est le deuxième commissaire d'expo.
On questionne cette idée d'isolement, non ? Sont eux qui sont isolés ou sommes-nous qui sommes isolés d'eux ? Et quels sont les projets de futur que ces peuples la produisent, par exemple, dont nous ne savons pas grand-chose. Nous savons juste que nous ne faisons pas partie de leur projet de futur. Nous ne faisons pas partie de leur projet de communauté.
Les salles de l'exposition nous montrent comment ces peuples très variés ont aussi apprivoisé la technologie et l'influence du monde occidental. Une impressionnante peinture représente ainsi la pandémie de Covid-19 comme une créature mythologique issue des croyances autochtones.
Évasion au cœur de l'Amazonie, musée du Quai Branly à Paris, ça s'appelle Amazonia, 13h27 sur Inter. À suivre dans la prochaine demi-heure, la météo avec Élodie Calac. Puis à partir de 13h30, ma prime rénove, grandeur et décadence, le dispositif suspendu pendant 3 mois, victime de son succès et de multiples fraudes. Le guichet rouvre aujourd'hui, mais en format extrêmement réduit. Vous avez un projet de rénovation ? Vous vous êtes déjà lancé, j'attends vos témoignages et vos questions. 01 45 24 7000. 13h45, notre feuilleton, nous sillonnons toute cette semaine le département des Vosges. Dans un camion à pizza, on va faire le plein de bons ingrédients dans 15 minutes. 13h50, c'est la France et c'est une chanson. Cyril Petit, Frédéric Pommier, bonjour à tous les deux.
Bonjour Jérôme.
Cyril, où nous emmenez-vous aujourd'hui ?
Eh bien, de Saint-Lô dans la Manche à Châteauroux dans l'Indre, en passant par Chambray dans l'Eure, je vous emmène en promenade, Jérôme, à Solex ou à bicyclette, c'est vous qui choisissez.
Ok, j'ai le choix, c'est parfait. Avec vous, Frédéric, un romancier.
Le corrézien Franck Bouys, dont le dernier livre, Entre toutes, vient de sortir chez Albin Michel, et avec lui, c'est la voix magnifique de Brian Ferry. Nous écouterons dans une reprise d'une chanson de Cole Porter.
Merci à tous les deux et à tout à l'heure.
Un vieux manoir isolé, des conservateurs très sûrs d'eux, plusieurs morts suspectes et un seul coupable, Jonathan Coe. Avec les preuves de mon innocence, Jonathan Coe s'amuse avec les codes du polar et démonte les illusions d'une Angleterre post-Brexit. Brillant, drôle, politique et délicieusement décalé. Après Le cœur de l'Angleterre, savourez Les preuves de mon innocence. Le nouveau roman virtuose de Jonathan Coe aux éditions Gallimard.
Savez-vous qu'il est possible de faire un leg au Secours populaire français ?
Oui, et c'est pour moi la plus belle manière d'agir pour un monde plus juste et plus solidaire. Grâce à mon leg au Secours populaire, je suis sereine. Je sais que le peu que je possède servira à une cause et des valeurs qui me sont très chères.
Demandez notre documentation gratuite au 01 44 78 79 26 ou rendez-vous sur secourspopulaire.fr. Secours populaire, on peut donner du bonheur, on peut aussi le transmettre.
France Inter, partenaire du nouveau film de Jafar Panahi, Un simple accident. En Iran, de nos jours, un homme croise par hasard celui qu'il croit être son ancien tortionnaire. Mais face à ce père de famille qui nie farouchement avoir été son bourreau, le doute s'installe, marquant le début d'un engrenage vertigineux. Un simple accident, Palme d'Or au Festival de Cannes, au cinéma le 1er octobre, un film France Inter.
Le temps de votre après-midi.
La météo avec les cafés Malongo, torréfacteurs engagés depuis 30 ans dans le commerce équitable. Les petits producteurs font les grands cafés sur malongo.com.
Bonjour Elodie Calac.
Bonjour à tous.
C'est une belle journée d'automne.
Oui, entre nuages et éclaircies. Alors on n'est pas à l'abri d'une petite averse sur le relief ou alors sur le nord-est. Le soleil se montre davantage sur les plaines du sud-ouest et de Rhône-Alpes et il domine largement sur l'ouest de la Bretagne, la Normandie, la région parisienne, mais aussi en Méditerranée avec du vent. Les températures sont agréables, 18 à 22 degrés sur la moitié nord et l'Auvergne-Rhône-Alpes, 21 à 23 sur le sud-ouest, jusqu'à 26 en Méditerranée. Demain, peu de changements, des températures encore fraîches le matin, plus douces l'après-midi et des éclaircies encore belles.
Merci Elodie Calac, Météo France.
France Inter, le 13-14, Jérôme Cadet.
Et on remet le courant. Après 3 mois de pause, le guichet MaPrimeRénov rouvre aujourd'hui, mais avec de nouvelles règles, le nombre de bénéficiaires des aides publiques à la rénovation énergétique va diminuer, et fortement, pas plus de 13 000 nouveaux dossiers d'ici la fin de l'année. Mais tout cela intervient après une explosion des demandes en début d'année, près de 95 000 en seulement 6 mois. Alors que deviennent ces dossiers déjà déposés? Que va-t-il se passer pour tous ceux qui ont des projets mais qui ne rentrent pas dans les plafonds de ressources? 01 45 24 7000 pour être avec nous. Vous êtes déjà très nombreux, j'attends vos questions et vos témoignages. Vous passez également via l'application Radio France. Je vous présente nos invités. Audrey Zermati, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la directrice de la stratégie Défi E2FY, entreprise de rénovation énergétique. En ligne avec nous, Jean-Christophe Repon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président de la CAPEB, la Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment. J'accueille également Claire Chaudière. Bonjour Claire.
Bonjour, bonjour à tous.
Spécialiste de ces questions de logement à la rédaction de France Inter. Merci d'être là. Et Anne est avec nous aussi. Bonjour Anne.
Oui, bonjour.
Vous nous appelez de Pont-Sainte-Marie. C'est dans le département de l'Aude, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Alors racontez-nous, vous avez déposé un dossier, failli déposer un dossier ?
Alors... j'ai quand même maintenu mon dossier. Moi, je suis dans un état de détresse et de colère totale, en fait. Comment, en une nuit, un Premier ministre peut abattre les espoirs, comme ça, d'une partie de la population, des entreprises, je pense à ceux de la CAPEB, mais je pense aussi des entreprises, comme mon accompagnateur Rénov, qui suivait mon dossier, et qui sont en train de se demander comment ils vont continuer, eux aussi, à travailler.
Qu'est-ce qui s'est passé pour vous, Anne ? Vous aviez un projet de rénovation ?
J'ai un projet de rénovation parce que de toute façon, il va falloir que je le fasse d'une manière ou d'une autre. Je suis dans une passoire thermique. J'ai pas d'eau chaude. J'ai une électricité qui est. J'ai pas de chauffage. J'ai des fenêtres qui sont. Voilà, c'est vraiment une horreur. J'ai de la moisissure de partout. Et donc je fais effectivement des devis. On était prêt à déposer en juin quasiment parce qu'il nous manquait un devis. On est obligé de déposer en septembre et dans une nuit, je passe de 63 000 euros d'aide. À 32 000. Moi, j'étais prête à casser le modeste bas de laine que j'ai. J'ai créé une entreprise, j'ai créé un cinéma d'arrêt-essai qui est hyper écologique à Pont-Sainte-Marie. Et on n'est pas aidé pour l'écologie, ni dans les entreprises, ni parce qu'on est particulier. Et là, je suis en train de me dire, mais comment je fais pour arriver à payer ces travaux, à ne pas rester dans cette précarité-là? Et moi, ça impliquerait que je suis au RSA pour pouvoir payer mes salariés. Et ça impliquerait que je récupère le peu d'argent que j'ai dans l'entreprise. et que je la mette en péril parce qu'on n'a pas, eu de d'aide de la région, qu'on a eu très peu d'aide et que l'écologie, tout le monde s'en moque. Voilà.
On entend votre détresse, Anne, et ce qui se passe quand des décisions sont prises comme celle-ci. On va essayer de les expliquer, on va aussi essayer de vous apporter des réponses. Merci pour votre témoignage, Audrey Zermati. Tout s'est arrêté d'un coup pour Anne, mais pour beaucoup de Français, au mois de juin.
Tout à fait, en fait, il a été annoncé l'arrêt, la fermeture du guichet le 23 juin. Et donc, on a mis tout à pied d'œuvre quand on l'a su pour pouvoir engager le maximum de particuliers pour obtenir les aides disponibles à ce moment-là, puisque c'était vraiment au moment du dépôt du dossier que les aides disponibles, les forfaits disponibles pouvaient s'appliquer. Et à partir du 23 juin, dès lors qu'on n'avait pas déposé son dossier, eh ben, on n'était plus éligible à ces niveaux d'aide qui étaient effectivement très important. Anne l'a rappelé, on allait jusqu'à 63 000 euros pour les ménages les plus modestes et pour une configuration de travaux plus importante. Et c'est vrai que beaucoup de Français se retrouvent dans la même situation qu'Anne. Se sont dit, bon, alors je vais quand même continuer, je vais aller regarder ce que je vais pouvoir avoir quand le guichet rouvrira. Donc on y est. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les aides sont moitié moins importantes. Elle fait partie encore, si je comprends bien, puisqu'elle fait partie de la classe la plus modeste, des éligibles au nouveau dispositif. Tout le monde ne l'est pas, hein, parce que le dispositif réouvre uniquement pour les très modestes en passoire énergétique. Donc, quelque part, elle fait partie de ces personnes qui sont encore éligibles dans le dispositif en 2025. Mais c'est vrai que les aides ont fortement diminué. Donc, je comprends, une déception très forte par rapport aux attentes.
Claire Chaudière.
Oui, et puis je pense qu'il y a vraiment des situations individuelles. On rencontre effectivement beaucoup de ménages qui sont, qui se disent, bon, bah, je vais peut-être abandonner mon projet. Il y a derrière aussi quand même la question de cette déception par rapport à une promesse du gouvernement, vraiment une dynamique a été appelée des vœux du gouvernement depuis quelques années. On a ce chiffre qui est brandi année après année. Il faudrait idéalement 700 000 rénovations d'ampleur pour atteindre ces objectifs de transition. Finalement, le gouvernement avait fixé cet objectif intermédiaire de 200 000. L'an dernier, on a frôlé les 100 000, donc c'était quand même déjà quelque chose d'important. Et cette année, en fait, vraiment, il se passait quelque chose, c'est-à-dire que l'élan attendu était en train de démarrer. Et c'est vrai que là, voilà, tout s'interrompt, enfin en tout cas tout se met en pause. Et donc derrière les cas individuels, il y a vraiment une déception, je pense, plus profonde.
Jean-Christophe Repond, est-ce que vous avez senti les conséquences pour l'activité de vos entreprises immédiatement ou bien, et compte tenu du nombre important de dossiers qui ont quand même été déposés dans les 6 premiers mois de l'année, vous êtes toujours sur cet élan ?
Nous, pour l'artisan du bâtiment, nous n'avons pas connu cette dynamique de rénovation dite globale. Parce que c'est vrai que la promesse qui était faite par le gouvernement était très très généreuse sur l'aide qui était présente sur le marché. Et en fait, quand on dit que MaPrimeRénov' était victime de son succès, elle était victime de son succès parce qu'il était très généreux. La question qui se pose derrière, c'est ce qu'on avait dit nous au gouvernement, c'est que si on veut vraiment massifier les 700 000 logements, l'État n'aura pas, vu les finances publiques actuellement sur le marché, présente la capacité d'engager les 700 000 rénovations. Et donc, il fallait, me semble-t-il, être plus modeste et accompagner plus longtemps les particuliers sur une autre démarche que la rénovation dite globale, qui a coûté très cher en 6 mois. Et on a vu que cette appétence, elle est due souvent aux entreprises commerciales qui créent le besoin et l'opportunité de la générosité de ces aides. Maintenant, il faut qu'on réfléchisse, et c'était l'engagement qu'on avait pris avec la ministre Létard, de travailler sur un
parcours de rénovation. Valérie Létard, la ministre du Logement.
Oui. Oui, la ministre du Logement encore, gérant des affaires courantes, qui pour écrire un parcours de rénovation et amener le plus grand nombre vers la rénovation énergétique. Là, on voit bien qu'on a une déception et qu'on a des particuliers qui espéraient beaucoup. Mais il faut rappeler quand même que cette aide était très généreuse, me semble-t-il trop généreuse pour que le particulier ait bien la conscience du chantier qu'il doit mener.
Claire Chaudière, ce que dit le gouvernement, c'est qu'en fait, l'enveloppe entre 2024 et 2025, elle n'a pas bougé. Elle est toujours autour de 3,5 milliards d'euros finalement.
Alors effectivement, elle est autour de 3,5 milliards d'euros, mais on se souvient de Valérie Létard, il y a un peu plus d'un an, au moment des discussions sur le précédent projet de loi de finances, qui disait il faut que tout le monde y aille, donc si on a plus de demandes, on remettra de l'argent sur ce poste-là. Donc elle avait dit ça. Quelques mois après, on a connu la situation budgétaire dont on parle depuis des mois, et finalement ça a changé. Alors, il y a eu effectivement cet engouement, donc effectivement,
l'enveloppe n'a pas énormément augmenté. Il y avait même quand même eu déjà un premier petit coup de rabot sur le niveau d'aide quand même au début de l'année. Mais effectivement, c'était des aides généreuses et les acteurs le disent. Hein, c'est vraiment ce type quand même d'aide qui à la fois permet aux ménages les plus modestes d'y aller et en même temps, c'est vrai, là aussi c'est vrai, c'est quand un secteur est ultra subventionné, bah, ça attire quand même aussi la fraude et ça a fait partie des sujets quand même qui ont été pointés du doigt ces derniers mois.
44 000 dossiers frauduleux retoqués en 2024. Un dossier sur 10 était frauduleux l'an dernier. Jean-Christophe répond, c'est quoi les fraudes? C'est des gens qui montent un dossier de demande d'aide et en fait il n'y a pas de rénovation, elle n'existe pas?
Il existe tout. Vous savez, il a été interdit par la loi les coups de téléphone commerciaux de démarchage. Et vous êtes vous-même, j'imagine, déjà régulièrement questionné à ce sujet. Donc il y a toujours ce démarchage téléphonique qui existe. Et après, il existe le vrai faux dossier. Donc pas d'entreprise, pas de client, et on monte quand même le dossier. Et derrière, il existe aussi des entreprises qui sont pas vertueuses et qui organisent le marché une fois qu'ils ont capté le client. Et tout ceci fait vraiment donne une image et une confiance aux particuliers qui n'est pas fiable pour nos artisans. Nous, les artisans, je vous le dis, hein, l'activité sur la rénovation énergétique n'a pas suivi l'engouement des 2,6 milliards consommés en 6 mois. Nous sommes à moins et demi d'activité sur la rénovation dite énergétique.
Mais il est allé où cet argent ?
Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire, moi je ne suis pas au gouvernement, je vous dis que l'artisanat n'a pas profité en tout cas. Je ne sais pas si les grands groupes, les concentrateurs et les mares ont particulièrement tiré leur épingle du jeu là-dedans, mais il y a évidemment une concentration du marché qui n'a pas été bénéfique. Et si on veut vraiment engager une stratégie, une vraie stratégie, et là on a vu encore que sur les monogestes, il y a eu des décisions qui sont uniquement budgétaires, suppression de la chaudière biomasse et suppression de l'isolation des murs intérieurs
et extérieurs. Ça c'est pour le 1er janvier prochain.
Mais ça veut dire aussi qu'on ne peut pas rénover sur un parcours de rénovation. Si vous enlevez des gestes qui sont prioritaires, me semble-t-il, pour rénover un logement, et que vous enlevez deux gestes de l'enveloppe, comment voulez-vous créer
un parcours de rénovation ? Ça complique les choses. Sur la fraude, Audrey Zermati, on a l'impression qu'on est toujours dans cette tension entre, bon, on va vraiment bien contrôler tous les dossiers, mais à ce moment-là, ça prend du temps, et donc on n'atteint pas les objectifs de faire beaucoup de rénovation, ou alors bah, on contrôle vraiment bien, et là, on évite la fraude. Il y a un peu cette tension entre deux objectifs.
Oui, c'est vrai. En fait, quand on lance un dispositif comme ça, effectivement avec des aides si généreuses, hein, je rappelle la moyenne des aides c'était autour de 45 000 euros, donc vous voyez que
c'est
beaucoup d'argent pour un logement. Donc quand on lance des aides si généreuses, effectivement il faut créer en amont les conditions pour éviter les fraudes et les abus qui vont de toute façon arriver au regard des montants.
Ça veut dire quoi les conditions en amont ?
Et les conditions en amont, ça va vouloir dire de pouvoir contrôler les gens à qui on fait confiance dans le système, et donc effectivement les accompagnateurs, les entreprises de travaux, à qui on donne mandat pour percevoir les fonds à la place du client. Donc en fait, toute cette, finalement, ce microcosme qui se crée autour du dispositif, c'est désagrément. Et des fois, on a envie de se dire, bon, bah, on va créer du volume, et donc quelque part, on veut lancer la dynamique. Donc au départ, on est assez, finalement, peu regardant sur les agréments qu'on donne. Et a posteriori, on se rend compte qu'on les a donnés avec trop de facilité, et c'est là que, finalement, on revient sur les décisions. Et c'est ce qui se passe, là. Hein. Ce qui a été annoncé hier, c'est des retraits d'agréments, c'est des contrôle sur des entreprises de travaux. Et donc là, mais c'est un petit peu tard parce que ça fait des dégâts sur les temporalités.
On l'a entendu avec le témoignage d'Anne tout à l'heure. Chloé est avec nous, vous nous appelez de Vendée. Bonjour Chloé.
Bonjour.
Vous êtes accompagnatrice MaPrimeRénov. Anne nous a parlé tout à l'heure.
Alors justement, non, parce que j'ai fait toutes les formations, donc je me suis investie beaucoup, tant au niveau financier qu'au niveau temps, donc j'ai fait toutes les formations pour être accompagnateur, j'ai plus qu'à demander l'agrément justement, ouais. Mais en fait avec tous ces revirements, et je suis sur d'autres groupes avec d'autres accompagnateurs, il y en a pas mal que je reviens, ils sont dégoûtés de tout ça.
Et vous nous expliquez en quoi ça consiste très rapidement Chloé ?
Alors en fait, à partir du moment où un ménage veut faire des travaux pour avoir les subventions de l'État, il faut qu'il soit accompagné par un accompagnateur Rénov.
D'accord.
Donc c'est ce dont parlait Madame tout à l'heure, il faut un agrément pour pouvoir être accompagnateur.
Vous n'êtes pas sûr d'aller au bout de votre formation aujourd'hui ?
Alors moi, la formation, elle est finie, je pourrais demander mon agrément, mais en fait, je ne sais même plus si j'en ai envie, parce qu'en fait, pour pouvoir accompagner les ménages, il faut savoir de quoi on parle, il faut qu'on puisse vraiment avoir les bonnes réponses à leur donner, et là, on est beaucoup à être complètement perdu, et du coup, on ne sait même plus quoi dire à nos clients.
Merci
donc,
Chloé.
Coup, c'est très compliqué.
Ouais, c'est difficile
et si
de
je peux juste rajouter une chose, j'entendais parler des ménages modestes, en fait, les ménages très modestes, C'est sûr, actuellement, c'est conserver les aides, peut-être de l'ordre de 45 000 euros, mais il ne faut pas oublier qu'il faut qu'ils les avancent. Mmh. Et un ménage modeste ne peut pas avancer.
Merci Chloé. Je précise que vous êtes architecte. Tout le monde ne peut pas devenir accompagnateur MaPrimeRénov', Audrey Zermati. Ce dispositif, il va être maintenu au-delà du 1er janvier. Qu'est-ce qu'on en sait? Est-ce que le système va fonctionner de la même façon?
Alors, justement, on a eu des textes qui sont sortis juste avant le changement de gouvernement, le 8 septembre, pour nous indiquer ce qui allait se passer en 2026 avec des modalités. Là, on réouvre pour tout le monde, donc tous les niveaux de revenus fiscaux seront concernés et avec des montants qui seront évidemment plus faibles. On maintient pour les très modestes des plafonds à 40 000 euros, mais pour les autres, ça va être plus faible que ça. Après, ça va dépendre du budget, je vais vous dire. Et ça va être un peu l'enjeu. Comme vous le rappeliez, il y a eu un maintien, voire un rabot en 2025. Que va être le budget de 2026? Et surtout, et c'est ça qui va être très important, et nous, c'est cette transparence qu'on demande au gouvernement, est-ce que le budget de 2026 n'est pas déjà entamé par des validations qui ont été des dossiers qui ont été déposés en 2025, mais qui seront validés qu'en 2026? Et donc, en fait, c'est tout l'enjeu, c'est de se dire quel va être le budget, est-ce qu'il va être à l'équivalent, voire un peu plus, et est-ce qu'on va pouvoir avoir les moyens de nos ambitions pour maintenir la dynamique qui avait été lancée?
Claire Chaudière, on a des éléments là-dessus?
Sachant que le gouvernement a déjà annoncé qu'il prévoyait pour 2026 d'utiliser les fonds des certificats d'économie d'énergie. C'est-à-dire que c'est des fonds privés, enfin en tout cas qui passaient par le secteur privé, qui vont finalement alimenter cette enveloppe-là. Donc le gouvernement va peut-être mettra peut-être un peu moins d'argent public. C'est comme ça qu'il compte aussi finalement boucler l'équation. Mais c'est clair qu'on est face à une grosse inconnue. Et la question, c'est est-ce que les ménages, seuls les ménages très modestes continueront de bénéficier de ces travaux d'ampleur, ou est-ce que ça va concerner tous les ménages qui sont là dans l'attente de ces décisions?
Arbitrage attendu dans les prochaines semaines. Merci à tous.
Merci également
pour vos très nombreux appels. 13h46 sur Inter. Une semaine dans leur vie. C'est notre feuilleton que nous passons dans un camion à pizza, celui de Thibaut Metz, qui sillonne les routes des Vosges depuis un peu plus d'un an. Il a quitté la restauration traditionnelle et nous le retrouvons aujourd'hui dans son local à Contrexéville.
Léa, viens là. Là, on a un petit restaurant qui s'appelle Les Comiques, qui est beau vers tout le temps. Lui, pareil, bah, il a que 30 places assises et il cartonne. Alors là, on est sur la place thermale de Contrexéville, où il y a vraiment le côté où on peut prendre de l'eau de Contrexéville. Ou qui est à mon local et celui de ma compagne où je travaille, donc on pourra un peu vous expliquer. Il y a un petit parc, un mini-golf, il y a le casino, il y a un petit parc derrière avec des jeux pour les enfants. Et puis bah, nous, on a une vue de dingue avec les touristes, les thermes. Léa, tu viens mon cœur, on va aller au local. J'ai désactivé l'alarme parce que sinon... Il y a un petit plan de travail, il y a des étagères, j'ai trois petits frigos. Donc des frigos qui sont un peu plus grands que ceux de la maison, parce qu'il n'y a pas besoin de grand chose pour travailler. Quand on fait du fait maison, tout se fait dans le camion.
Vous n'avez pas de congélateur?
Ah non, alors ça, pas de congélateur, c'est la base là. Vu que c'est du circuit court, j'ai pas besoin d'avoir un gros local, parce que moi, mes frigos, ils sont chez les agriculteurs. On va le matin, on a besoin du jambon, on a 10 minutes de route et je vais me servir. Pour donner une idée, cette farine, voilà, c'est de la farine qui vient directement d'Italie. Donc c'est une farine avec un tour spécifique pour attester, pour voir un petit peu, en fait, elle va ressembler à de la smooth comme ça. En fait, ça va ressembler vraiment à de la semoule, un peu comme la fécule de pommes de terre dans les paquets mousseline là, que vous avez. Donc c'est quelque chose de très épais, qui va maturer différemment avec un mélange spécifique entre les farines différentes. Et faut la réserver, voire 6 à 8 mois, des fois un an à l'avance. Alors, moi, 2026, je sais que je veux 2 palettes, voire 3 palettes. Bah, je commande les 3 palettes et on fait des avances, tout ça, parce que c'est vraiment un produit un peu unique. Donc voilà le frigo. Là en ce moment j'ai eu le drap de la Monteverti, donc c'est de la mozzarella de vache, pas de bufala, que je vais tester un peu en exclusivité parce qu'il faut savoir que la mozza il y a des saisons. Donc moi je change les saisons. On aura le poulet, le chèvre, les champignons frais, les pommes de terre pareil. Donc c'est comme les oignons rouges, on essaie de faire plus frais. Le parmesan là pareil, moi je fais venir des meules. Elle prend 3-4 semaines à arriver. On aura les nouillas, bon, la pâte de chorizo. Donc ça on est sur quelque chose que les gens adorent, ça pique. L'escarmoza fumée.
Okay. Bon Thibaut, j'ai vu que tu avais pensé à prendre tes sauts de crème, ton jambon. Est-ce qu'il te faut autre chose?
Oui, alors est-ce qu'en ce moment tu peux rentrer style des produits italiens, escarmoza, taleggio, gorgonzola?
Eh ben écoute, le taleggio, moi je te l'ai référencé. Il faut juste que tu me le commandes un petit peu à l'avance, que je le fasse rentrer dans les stocks. Mais c'est dispo quand tu veux.
Tu les mets sur la commande.
Oui, avec plaisir.
Bonjour, je m'appelle Lucie Bonabel. Je suis commerciale pour la maison Cleury-Augier, qui est un grossiste en alimentaire basé dans les Hauts-de-Vosges à Saint-Nabor. Alors, tout ce qui est camion food, en tout cas les ambulants, les tournants, effectivement, il y en a beaucoup qui ont ouvert, qui ont plus ou moins tenu. Hein, j'en ai qui ont fait 2-3 mois, un an, pas plus. Je pense qu'ils s'attendaient à ce qu'il y ait une certaine liberté. Puis finalement, ça nécessite quand même d'être assidu, d'être présent, puis organisé, parce qu'il faut pas manquer. Et ça peut aussi satisfaire toute la population des petits villages qui ne voient plus personne. C'est vraiment des déserts de liens sociaux. Finalement, on voit bien que les gens peuvent se retrouver des fois dans les supermarchés et discutent pendant des heures dans les allées des supermarchés parce qu'il n'y a plus ce côté convivial. C'est vraiment dommage. Et c'est là qu'un food truck peut répondre à ce besoin aussi. Les gens vont se retrouver devant, se recroiser et pourquoi pas boire un verre en attendant. C'est vraiment quelque chose qui manque et qui marche. Voilà.
Et on comprend pourquoi. Deuxième épisode de notre feuilleton signé Cécilia Arbona. Réalisation Antoine Larcher. La suite demain.
France Inter, le 13-14.
C'est la France, le mardi 13h50, Cyril Petit du journal Ouest France est là pour nous raconter ces petites histoires qui en disent long. Et aujourd'hui, Cyril, en direct de Lille, où vous vous trouvez, vous nous racontez des petites histoires de deux roues.
Allez, montez Jérôme, je vous emmène à Solex, à Saint-Lô. Car c'est dans la Manche que devrait renaître en 2026 le plus célèbre des cyclomoteurs Solex, le 3800, qu'on appelait aussi 38 ou 3008. Le président de l'entreprise Rebirth, spécialisé dans les rachats de marques de vélos en difficulté comme Gitane, Peugeot ou Angel, vient d'annoncer ce projet dans Ouest France alors que la marque Solex fêtera ses 80 ans l'an prochain. La production s'était arrêtée en France en 1988 après la vente de plus de 8 millions d'exemplaires de l'engin au moteur sur la roue avant.
Il y a un autre deux roues mythique qui va renaître l'an prochain.
Oui, Jérôme, le 13-14 en avait parlé en mai. La Mob redémarre, la marque Mobilette, un nom propre devenu commun, a été rachetée il y a 6 mois par Tunsen Trading, une entreprise basée à Châteauroux dans l'Indre. Alors, la Mobilette est née en France en 1949 chez Moto Bécane. Près de 15 millions d'exemplaires ont été vendus jusqu'en 2003 et la fin de sa production quand elle a été supplantée par le scooter.
Cyril, ces projets ont quand même une différence avec les modèles du passé.
Et pas des moindres, hein. Le moteur ne sera plus thermique mais électrique, transition écologique oblige, avec un son qui sera différent, moins iconique diront certains de celui entendu tout à l'heure. Alors Solex et Mobilette proposent déjà des vélos à assistance électrique, mais là ce seront bien des cyclomoteurs pouvant rouler jusqu'à 45 km/h. D'ailleurs, leur utilisation sera soumise à la possession du brevet de sécurité routière à partir de 14 ans, au port du casque, à l'immatriculation et à l'assurance. Interdiction aussi de rouler sur les pistes cyclables. Autre différence avec les modèles du passé pour ces cyclomoteurs made in France, leur coût entre 2600 et 4000 euros.
Au fond, pourquoi font-ils leur retour ?
Eh bien, entre vélo et trottinette électrique d'un côté, scooter, moto, voiture de l'autre, il y a peut-être un espace vacant pour ceux qui, à la ville ou à la campagne, veulent parcourir quelques dizaines de kilomètres avec un véhicule plus léger, moins polluant et sans pédaler. Et puis, ce sont aussi des engins plus simples à entretenir.
Il y a un peu de nostalgie quand même.
Ouais, beaucoup, Jérôme. Je cite Marius Tunsen qui travaille sur la Mob. On sent un vrai attachement. Certains ont des tatouages Mobilette, comme d'autres ont des tatouages Harley Davidson. Alors, rappelons que Mobilette et Solex ont été, pour des générations d'adolescents, le symbole de la liberté. On pouvait quitter son village sans permis. Pour beaucoup d'ouvriers, la Mob a aussi permis l'indépendance à prix abordable. Et puis, ces deux roues sont devenues de véritables stars de cinéma.
C'est l'heure de redémarrer.
Allez, on repart, Jérôme, pour un petit tour de France. Dans la commune de Wiem, 500 habitants dans le Nord, on compte près de 40 propriétaires de Solex. À Nuit-Saint-Georges, en Côte d'Or, une solexerie loue le bolide pour découvrir les vignes. Ces derniers jours, Sugère dans le Puy-de-Dôme ou Quillan dans l'Aude ont fait la fête aux meules qui pétaradent, tout comme Chambray dans l'Eure. Gardez votre casque, Jérôme. Voici ce que dit au démocrate de Vernon, l'un des organisateurs du Rasso Mob Festival. Quand on roule, on retrouve le sentiment de liberté avec les deux petites larmiches sur les côtés et la banane. Et ça, c'est fatal. À 14 ans ou à 60 ans, ça marche avec tout le monde, cet effet apaisant. Et puis, Jérôme, cette magie que les nouveaux Solex et Mobilette ne souhaitent sans doute pas copier, mais qui fait pourtant le charme des modèles d'origine, il y a toujours une panne,
un truc.
Il faut toujours garder son casque quand on fait de la radio. Merci. Évidemment. Cyril Petit, en direct de Lille, grâce à nos confrères d'ici Nord que l'on salue. De C'est la France à C'est une chanson. C'est l'écrivain Franck Bouys que l'on retrouve aujourd'hui à votre micro, Frédéric Pommier.
Franck Bouys, dont vient de sortir le nouveau roman Entre toutes, dans lequel il raconte la vie et le destin de sa grand-mère, Marie, née en 1912 en Corrèze. Et c'est la voix de Brian Ferry qu'il a souhaité que l'on écoute dans sa reprise de la chanson Miss Otis Regrets.
On est dans un appartement parisien, dans le Marais, chez un copain, et j'entends flotter la voix de Brian Ferry. Je lui demande ce que c'est, je ne connaissais pas l'album. Et puis vient le moment où il y a un grand silence, et on entend un orage qui monte comme ça, et puis le violoncelle. Et là, on s'est interrompu tous les deux, mais écoute ça. Et je sens qu'il y a une tragédie derrière qui est en train de monter. Et moi, j'étais pas écrivain à l'époque, c'est-à-dire j'avais pas écrit de bouquin. Et je comprends comment on peut en venir à faire monter comme ça une émotion par le texte, très doucement, parce qu'en fait le rythme est assez lancinant, ça monte, ça monte, ça monte. Et ce qui est fascinant, c'est que c'est un narrateur qui raconte l'histoire. Et donc, cette espèce de narration comme ça extérieure m'a entraîné justement à écrire des tragédies moi-même.
Cette chanson, elle a vraiment déclenché l'écriture chez vous ?
Ah oui, oui. Je me suis mis à écrire un premier livre qui se passait dans les Cévennes, dans la neige, etc. Entre deux personnages qui étaient très communs, deux vieux paysans. Et puis ça se termine tragiquement, un peu à la manière de cette chanson-là. Mais sans avoir l'air d'y toucher. C'est-à-dire, il n'y a pas de dramaturgie comme ça, spectaculaire. C'est quelque chose qui monte petit à petit. La vie, quoi.
Miss Otis regrets she's unable to lunch today. Madam, Miss Otis regrets she's unable to lunch today. She is sorry to be delayed, but last evening down in Lover's Lane she strayed. Madam, Miss Otis regrets she's unable to lunch today.
Et c'est à Cole Porter qu'on doit cette chanson, Frédéric.
Une chanson composée en 1934 et qui raconte l'histoire d'une femme, cette Miss Otis, qui tue son amant infidèle et finit pendue à un arbre, lynchée par la foule. La version de Brian Ferry date de 1999 et depuis qu'il l'a découverte, Franck Bouys ne s'en lasse pas.
Il y a quelques morceaux comme ça. Ils sont rares, mais elles me bouleversent toujours de la même manière. C'est toujours la même émotion. Et je pose des émotions différentes dessus, selon ce que je suis en train de faire, ce que je vis, etc. Elles me racontent toujours une autre histoire.
Et est-ce que vous avez l'impression que c'est un petit peu comme une piqûre de rappel qui vient vous redire pourquoi vous êtes écrivain, ce que vous aimez écrire, la tension que vous devez mettre dans vos livres ?
Oui. Elle me ramène à la simplicité de la tragédie. Elle est pure. Comment ça monte tout naturellement, comment la vague monte comme ça, et puis elle redescend, il faut la suivre. Donc, dès que j'ai un doute, je mets cet album-là, c'est un des seuls qui est sur ma chaîne Ifi, je me la repasse comme ça, et je remonte sur la vague, voilà, je me laisse porter.
When she woke up and found that her dream of love was gone, madam, she ran to the man who had led her so far astray. And from under her velvet gown she drew a gun and shot her lover down. Madam.
Vous l'avez dit à plusieurs reprises, cette chanson c'est donc une tragédie. Vous écrivez vous-même du tragique. Est-ce que dans votre vie il y a du tragique aussi ?
Oui, il y a du tragique dans mon dernier livre. Je pense qu'on comprend pourquoi j'ai ce goût du tragique. Ça vient d'une histoire personnelle, d'une histoire familiale, etc. Même au-delà du tragique, une histoire de malédiction. Et j'ai envie de témoigner de ça, oui.
Et le fait de la raconter, c'est s'en défaire un peu aussi ?
Bien sûr, ouais, exactement. Même plus que s'en défaire, c'est de s'en dédouaner. C'est-à-dire d'avoir un regard complètement extérieur à ça. Voilà, de la mettre à distance. Alors c'est pas toujours facile, hein, mais l'écriture est une manière de mettre à distance le tragique et la malédiction, en la confiant aux mots, à une histoire, en la confiant à des personnages. Voilà. Tous mes personnages sont empreints de ça, de cette force tragique.
Comme dans cette chanson.
Miss Otis regrets she's unable to lunch today.
Miss Otis Regrets, Brian Ferry. C'était donc, Frédéric, le choix de Frank Buis.
Frank Buis, dont le dernier roman, Entre toutes, vient de paraître chez Albin Michel.
Merci Frédéric et à demain. Stéphanie Duncan, le fil de l'histoire à suivre.